Maria.
Bonjour.
Déjà, une première question qui était par rapport à ton parcours. Est-ce que tu peux nous présenter assez rapidement voilà, est-ce que tu as un background scientifique? Est-ce que tu as fait des études d'art, etc.
Alors, background scientifique, oui, en une certaine mesure, j'ai passé un bac S où j'étais passionnée de biologie, mais en fait, je me suis assez rapidement dédiée plutôt à l'art. Et donc, je suis rentrée aux Beaux-Arts de Cergy, dont je suis partie après 2 ans pour me spécialiser en photo-vidéo à l'ENSAD, donc l'École nationale supérieure des arts décoratifs, où j'ai passé mon diplôme de master en 2011. Et en fait, qui marque ma première rencontre avec le milieu scientifique, et qui va, voilà, cette rencontre en fait va vraiment opérer un tournant dans ma pratique, et je vais continuer dans cette voie en engageant en 2012 un doctorat sciences arts création recherche à l'université Paris Sciences et Lettres. Donc voilà, c'est donc pour mener un travail de recherche artistique par la pratique qui se place à l'intersection de l'art et de la science.
Et donc, doctorat que tu es en train de finir.
Tout à fait, oui.
Donc, tu as notamment réalisé des algaégraphies qui sont en fait des photographies vivantes créées par des micro-organismes sensibles, photosensibles. Peux-tu nous expliquer ce travail avec les algues, justement?
Alors, donc, ce projet algaégraphique, en fait, il débute lors de mon diplôme à l'ENSAD, et c'est un peu la synthèse de mes travaux antérieurs et puis aussi ce qui va marquer le début de mes recherches pour ma thèse. Alors, très brièvement, on pourrait le résumer en 3 questions. La première serait comment l'individu s'élabore dans un milieu donné. C'est un petit peu le sujet qui va me suivre dans tous mes travaux. Le deuxième point, c'est comment la technique, donc ici, dans le cas des algaégraphies, ça sera l'image, intervient dans cette relation. Et le troisième point, donc en tant qu'artiste, comment le dispositif artistique peut-il mettre à l'œuvre cette relation? Et quand j'entends mise à l'œuvre, ça veut dire le mettre en travail, c'est-à-dire à la fois le représenter dans un espace d'exposition, mais aussi le mettre en travail d'élaboration vis-à-vis du spectateur. Donc voilà, ce projet algaégraphique, il part d'une réflexion sur un premier rapport de tension ontologique qui se place entre notre identité à la fois biologique et culturelle. Donc là, je reprends un peu Edgar Morin, finalement, qui nous place toujours entre un désir d'évolution et de régression. Selon moi, le médium photographique marque assez bien cette oscillation. À la base, on a un phénomène naturel qui est la lumière, qui peu à peu, avec la technique du développement argentique, va être captée sur un support, va être domestiquée. Et puis, dans l'époque plus récente, le numérique, un nouveau rapprochement qui s'opère entre la technique et un comportement que je vais appeler biologique, puisque finalement les images numériques sont capables de se multiplier, de se développer, finalement d'avoir une espèce de viralité qui rappelle les comportements biologiques. Un premier point qui va m'intéresser, c'est le rapport de tension ontologique entre notre identité, qui est à la fois biologique et culturelle. Donc là, je reprends le concept d'Edgar Morin, qui nous place toujours entre un désir d'évolution et de régression. On est un petit peu coincé entre ces deux états. Et donc finalement, moi, je l'ai retrouvé dans l'apparition du médium photographique, qui est finalement un rapport à la lumière, un rapport originel à la lumière, qu'on a envie de domestiquer, de comprendre avec la photographie argentique. Et puis dans une époque récente, le numérique, l'image, se transforme à nouveau et c'est une technique qui va tendre vers le biologique, dans le sens où finalement, avec le passage sur un ordinateur, les images sont capables de développement, de multiplication, d'une viralité, d'une certain type d'évolution que je voulais mettre en œuvre dans la création d'un procédé photographique nouveau. Donc l'image vivante, elle vient un petit peu à la fusion, on va dire, de l'argentique, la rupture de l'argentique et du numérique. Ce sont des images qui sont créées par des cellules photosensibles et mobiles qui réagissent à une lumière, donc celle donnée par un négatif. Et donc, elles vont se déplacer pour aller composer progressivement les densités de l'image et former, malgré elle, voilà, une image donc réellement vivante puisqu'elle est formée de petites cellules.
D'algues, donc, c'est ça.
Voilà, ce sont des micro-algues donc, voilà, qui réagissent et bougent en fonction de la lumière. Donc on a un double phénomène à la fois de multiplication et de phototactisme. Donc voilà, vraiment cette idée de s'orienter en fonction de la lumière. Pour faire le lien avec le numérique, qui, finalement, chaque petite algue devient un petit pixel qui va pouvoir changer d'état au cours du temps, puisque c'est un rapport qui est dynamique, elles réagissent en continu à la lumière. Justement, ça, c'est un deuxième point qui m'a intéressée, c'est finalement cette relation rétroactive entre l'individu et le milieu, où chaque être vivant, finalement, agit sur son environnement et subit enfin, aussi son influence. Et donc, dans un premier projet qui s'appelle Culture, ces images avaient été fixées. Et là, dans la période plus récente, je me suis intéressée à la façon dont cette image pouvait rester dans cet état dynamique, qu'on ne perçoit pas forcément dans mes premières pièces, pour vraiment tirer parti des propriétés dynamiques du vivant, donc cette capacité de réagir en continu à un environnement donné et de s'y adapter.
Tes œuvres, en général, interrogent la perception que l'on a du monde, et on vient de le voir là, en posant donc des situations qui révèlent le réel et sa complexité. Mais est-ce que tu peux nous dire comment la science t'inspire pour créer justement ces situations qui sont quand même assez incroyables?
Alors justement, cette question de la perception de la réalité, elle a été un peu toujours présente dans mon travail. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette notion, c'est vraiment cette articulation, ce renouvellement constant de la vision finalement qu'on se fait du monde et qui est toujours un peu coincé entre une objectivité, une rationalité, on observe les choses telles qu'elles sont, et puis finalement un imaginaire et une irrationalité spéculative dont on a besoin aussi pour constituer finalement une réalité qui nous soit propre. Et donc finalement, cette double articulation se place à la frontière des paradigmes scientifiques et artistiques. Moi, dans ma pratique, je vais essayer vraiment de partir de cet univers concret, de cet univers qui a été un peu aplani, pour essayer de voir comment on peut réinsuffler un espace de subjectivité, un espace de vécu et un espace d'expression également. Comment on peut redonner à cette réalité une espèce de densité qui soit loin des simplifications. Donc c'est aussi rajouter une forme de complexité. Et donc je vais chercher dans les méthodes, dans les sujets, dans les techniques scientifiques, comment ces objets peuvent redevenir des objets d'individuation, comment l'individu peut s'élaborer avec ces objets, à partir de ces objets. Et donc là, effectivement, c'est une partie de mon travail qui a une forte influence simondonienne, où je vais essayer d'aller retrouver finalement au cœur de la technique un moyen de renouer avec une part aussi biologique de nous-mêmes.
Et pourquoi, à ton avis, ta pratique intéresse-t-elle les laboratoires et les scientifiques avec lesquels tu travailles ?
Alors, on ne sait jamais vraiment, mais je pense que j'ai un rapport, comme j'ai un rapport très concret à ces techniques, c'est-à-dire je vais vraiment aller dans la compréhension de ces techniques, on partage aussi des outils communs. On peut rentrer dans des explications qui sont du coup très techniques, mais qui nous permettent aussi d'avoir un langage commun, même si les buts, les finalités ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi, elles sont artistiques et elles veulent susciter une réflexion, tandis que pour eux, ça va être une application éventuelle ou une publication ou voilà, une connaissance. Donc voilà, on n'a pas forcément la même approche au final. Mais ce qui va être intéressant, c'est ce point qui nous lie et aussi qui nous désunit, parce que moi, ça va alimenter effectivement ma pratique aussi, ma réflexion. Je vais me poser des questions sur cette façon de construire le savoir. Et je pense que j'ai aussi une façon d'aborder des outils qu'ils connaissent très bien, avec une certaine originalité, pour ne pas dire excentricité.
Liberté.
Voilà, une certaine liberté qui leur fait aussi regarder ces outils qu'ils connaissent différemment.
Il y a une forme de sérendipité aussi, finalement, parce que tu peux très bien, j'imagine en tout cas, présenter une forme d'expérience qui va aboutir pour eux à des questionnements qu'ils n'auraient peut-être pas eu si tu ne leur avais pas proposé d'aller dans ce sens pour expérimenter telle chose, par exemple.
C'est vrai que dans la pratique artistique, moi j'en ai un très fort, on va dire, à l'empirisme. J'aime bien découvrir en faisant, et en fait, j'ai besoin de passer par la prise en main des choses pour pouvoir avancer dans mon travail. Et c'est un peu les questions se posent un peu comme ça, c'est un peu une démarche à l'envers. Alors que eux, je pense, ont plus tendance à préparer leur manip et ensuite à agir. Et donc, effectivement, cette démarche empirique, elle permet aussi l'abduction. Enfin, c'est une démarche d'abduction. Et elle permet effectivement de découvrir des choses de façon tout à fait surprenante, parce qu'on fonctionne un petit peu à l'envers.
Et tu as également travaillé sur une installation qui s'appelle « Éducation à la danse pour 8 plantes télégraphes », dans laquelle la plante télégraphe, qui a en effet cette étrange capacité à se mouvoir en s'adaptant à la lumière, va être stimulée aussi par certaines fréquences sonores. En tout cas, c'est une hypothèse que tu proposes. L'installation donc consiste en un dispositif de biofeedback qui permet à la plante de contrôler la lumière. Peux-tu un peu nous expliquer plus précisément cette œuvre et surtout comment le public est amené à interagir avec cette installation et avec ces plantes donc.
Alors pour remettre un petit peu le contexte, c'est une pièce qui a été commandée par un programme européen qui travaillait sur l'épigénétique, donc une thématique qui m'intéressait depuis très longtemps, parce qu'on retrouve en fait cette interaction entre l'environnement et le vivant. L'épigénétique fait l'hypothèse que l'environnement agit sur l'expression de nos gènes. Ça ne veut pas dire que ça change nos gènes, ça veut simplement dire que la lecture qui en est faite change un petit peu. Et donc ça peut avoir des répercussions visibles. Et donc, à partir de ce sujet, je me suis dit, voilà, comment on peut rendre palpable quelque chose qui est aussi... aussi immatériel que l'épigénétique, parce qu'il s'agit finalement d'un espace relationnel, mais qui est totalement invisible. Et donc, dans cette pièce, on a donc une plante télégraphe qui, lorsqu'elle va bouger un petit peu, va émettre des signaux électriques qui sont captés par un système EEG. Donc, c'est ce qu'on utilise pour capter les ondes cérébrales. Habituellement, donc c'est vraiment lié au cerveau humain, on ne met pas du tout ça sur une plante normalement. Ces signaux vont être reliés au système lumineux qui peut amplifier cette mobilité, donc notamment quand la plante bouge beaucoup, elle émet des lumières bleues qui vont stimuler cette mobilité. Donc en fait, on a une espèce de système, de boucle fermée qui fait en sorte que plus la plante bouge, plus elle va être amenée à danser, etc. etc.
C'est l'idée de biofeedback.
C'est l'idée d'un biofeedback, mais là, du coup, qui est un biofeedback d'apprentissage aussi.
D'accord.
Parce que le biofeedback, c'est simplement une donnée biologique qui est récoltée. Là, il y a vraiment une idée que cette donnée, elle est remise en service pour optimiser un caractère chez la plante.
On a bien compris l'idée de biofeedback par rapport à la plante, mais du coup, comment le public se place par rapport à cette installation ? Quel impact ça a sur cette danse ?
Alors, donc le public, il a une... En fait, il a dans cette pièce une place qu'il peut prendre ou ne pas prendre. Donc, je le laisse face à son système de croyances en lui proposant d'interagir soit par les ondes électromagnétiques qu'il émettrait, soit par la musique qui amplifierait ce phénomène de mobilité. Et donc ça, c'est des choses qui, bien sûr, n'ont pas été prouvées en laboratoire. Et donc là, on laisse un peu à la libre croyance de chacun d'estimer s'il a une place à prendre dans ce système d'optimisation. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une expérience réelle qui sera menée pendant 15 jours sur toute la longueur de l'exposition. Donc on a aussi tout ce suivi, il y a des gens qui sont revenus plusieurs fois pour voir si effectivement la mobilité avait augmenté. Il y a un chanteur, musicien-chanteur qui est venu chanter près des plantes en nous assurant que il y avait vraiment eu quelque chose qui s'était passé et que là elle bougeait vraiment plus.
Ah oui, il était convaincu.
Il était totalement convaincu, mais c'est très beau parce que finalement oui... On peut tout à fait imaginer, quand on parle d'épigénétique, que finalement toute action a une influence sur ce qui nous entoure. Donc pourquoi pas ? L'idée n'est pas si aberrante Et c'est un petit peu voilà, ce que voulait poser cette pièce-là, en plaçant le spectateur donc, face à un dispositif qui a l'air très scientifique, très rationnel aussi. Et c'est aussi ce système de croyances-là qui est interrogé. Est-ce que c'est parce que c'est technique que c'est vrai, que c'est juste et que ça marche, et de le placer face à lui aussi, ce qu'il a envie de croire, parce que ça lui tient à cœur.
Et c'est également intéressant par rapport à la croyance qu'on peut avoir dans l'art.
Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est ça finalement qui est intéressant, c'est cette superposition voilà, de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un espace d'exposition, qui tout d'un coup est un petit peu un ready-made, il est porté dans cet espace d'exposition. Ça en change la perception, mais du coup, ça devient une perception qui est trouble. C'est un laboratoire qui s'invite dans un espace d'exposition. Donc, est-ce que c'est encore un espace totalement factice ou non, ou est-ce qu'on est face à une expérience réelle? Donc, c'est vraiment travailler sur cette tension-là et sur cette superposition-là. Voilà.